Je veux remercier aussi tous nos amis qui sont venus ce soir pour cette conférence de presse. Alors pour nous, c'est un petit peu le début de la pré-campagne électorale, voire de la campagne, même tout court. C'est un peu le lancement ce soir. Donc, je voulais vous présenter un petit peu la tribune. Donc, sur ma droite, il y a Am, qui est ouvrière à SNECMA et La Roche. Anne de la Torre. Sur ma gauche, Cathy, Catherine. Qui est aussi ouvrière à SNECMA et La Roche. Et Nathalie Artaud, que je ne vous présenterai pas ce soir, mais vous connaissez déjà, je pense. Voilà, donc la soirée, ça va se passer de la manière suivante. Nathalie va nous faire un petit exposé, et puis ensuite, on pourra poser des questions que vous souhaitez. Et dernier petit point, si vous avez des portables, pensez à les éteindre, c'est mieux.
Merci.
Nathalie, merci aussi d'être venue, parce que je ne t'ai pas remercié. Je te passe la parole.
Bon, ben d'abord, merci d'être là, nombreux pour soutenir ce début de campagne. Cette campagne, elle va bien sûr se présenter dans une situation où pour les travailleurs, pour l'ensemble des classes populaires, les difficultés s'accumulent. Et nous pensons qu'elles s'accumuleront du simple fait que la crise, elle s'aggrave. Et cette crise, donc on vit là une période d'aggravation de la crise, et on le voit, tous ceux qui dirigent, je ne parle même pas des hommes politiques, qui sont là de toute façon pour faire du cinéma et pour amener la galerie. Non, je parle des dirigeants des grandes banques, des PDG qu'on paye à coups de millions, je parle des prix Nobel d'économie, même tous ceux-là qui sont au cœur de cette économie, en fait, ils n'en maîtrisent absolument rien et ils ne savent pas quoi faire pour mettre fin aux soubresauts de boursiers et aux soubresauts financiers. On voit qu'ils sont complètement démunis face à ça. Alors là, ils sont contents parce qu'ils ont, en faisant voter le plan, le fonds de garantie et le nouveau plan d'aide, qui dit aide à la Grèce, les marchés financiers sont rassurés. Bon, mais pour combien de temps? Pour quelques jours, pour quelques semaines, tout ça, personne ne peut le dire. En tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est que même s'ils ne savent pas comment faire pour sortir de cette crise, ils ont un réflexe, c'est nous faire reculer, nous tous, les travailleurs, c'est de faire reculer nos conditions de vie, c'est de nous imposer des sacrifices. Ils ne savent même pas, en fait, si ça changera quoi que ce soit, mais c'est leur réflexe, c'est de faire reculer l'âge de départ à la retraite, c'est de supprimer des emplois dans la fonction publique, de supprimer des postes d'enseignants, des postes d'instituteurs, de supprimer des postes dans les hôpitaux, enfin, tout ce dont on a besoin pour la vie quotidienne. Bon, ça, c'est leur réflexe. On fait payer la population. Vous avez tous vu que, d'ailleurs, ils justifient ces attaques en disant qu'ils vont sauver comme ça l'euro. Et le pire même, c'est lorsqu'ils expliquent que c'est pour sauver la Grèce. Parce que quand on voit ce que la population grecque paye depuis déjà un an, on se dit qu'un sauvetage comme ça, on n'en veut surtout pas. Parce que pour la population grecque, ce sauvetage, ça a quand même voulu dire des diminutions de salaire, ça a voulu dire des diminutions sur les retraites, ça a voulu dire des dizaines, des centaines de milliers de suppressions d'emplois. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sauvent pas les Grecs, mais qu'ils sont en train, littéralement, de les étrangler. Ils sont en train de les plonger, au contraire, dans la misère. Alors tout ça, encore une fois, pour rassurer les banquiers, pour rassurer les marchés financiers, et puis pour se porter au secours, en fait, des banques qui ont prêté, effectivement, à la Grèce, à commencer par les banques françaises, qui sont très concernées par ces prêts à la Grèce. En fait, ils sont en train de refaire aujourd'hui exactement ce qu'ils ont fait en 2008. C'est-à-dire que ils sauvent la mise aux banquiers en les renflouant, en faisant payer la population. Mais ce qu'on voit, c'est que depuis 2008, finalement, c'est simplement remettre de l'argent à ceux qui spéculent, à ceux qui mènent l'économie dans le mur. Voilà à quoi aujourd'hui sert leur sauvetage et toute leur solution. Parce que tout cet argent-là, finalement, qui est mis à la disposition des banquiers et des capitalistes, c'est de l'argent qui est perdu, bien sûr, pour nous, mais c'est en plus de l'argent qui est nuisible et qui se retourne contre nous, parce qu'il n'est pas utilisé pour investir, mais il est utilisé dans des opérations financières dont toute la société crève. Alors nous, face à cette situation-là, eh bien, on dira pendant toute cette campagne qu'il n'y a aucune raison d'accepter de reculer, d'accepter de nouveaux sacrifices au prétexte qu'on va sauver l'euro, au prétexte qu'il faut sauver la Grèce ou au prétexte qu'il faut rembourser la dette de l'État. En réalité, toutes ces solutions n'en sont pas. Hein. Aucune n'évitera la débâcle d'un système qui est de toute façon complètement irrationnel, complètement absurde et qui donne finalement la priorité aux capitalistes et aux spéculateurs. Non, nous voulons dire dans cette campagne que les travailleurs, justement, ne doivent pas se laisser impressionner par tout ce discours et qu'il faut qu'ils pensent à défendre leurs intérêts à eux. Je ne parle pas de leurs intérêts égoïstes, mais je parle de leurs intérêts collectifs, hein, de défendre leur emploi, de défendre leur pouvoir d'achat, et que c'est des intérêts qui vont dans le sens de toute la société. Absolument de toute la société, parce que quand des entreprises ferment, quand il y a des suppressions d'emplois, c'est toutes les classes populaires qui sont frappées, y compris les petits commerçants, les petits artisans, qui en subissent évidemment le contre-coup. Donc les intérêts des travailleurs, c'est de se défendre, et en se défendant, c'est d'entraîner toute la société vers un autre avenir. Voilà pourquoi je défendrai dans cette campagne un programme pour les luttes, un programme de lutte pour les travailleurs, et à commencer par un programme qui... qui propose une mesure qui nous semble, nous, une mesure évidente pour combattre le chômage. Nous pensons que le chômage, c'est pas une fatalité, qu'on peut y mettre fin, et que pour ça, il faut commencer par interdire les licenciements. Par interdire les licenciements, alors c'est pas un slogan, mais c'est simplement parce qu'on peut faire autrement. Il y a une autre façon de faire, c'est de partager le travail entre tous. Bien sûr, sans diminution de salaire. Parce que même quand il y a une crise, même quand il y a un ralentissement des affaires, l'activité, elle continue. Il y a toujours quand même de l'activité, il y a toujours de la production, il y a toujours du boulot à faire. D'ailleurs, tous ceux qui aujourd'hui sont au travail, ils se rendent bien compte que ça continue, qu'au contraire, les cadences, ça augmente, qu'on est en train de les presser comme des citrons, que la charge de travail augmente. Donc ce travail qui existe dans la société, il faut se le partager entre tous. Et il faut bien sûr embaucher les intérimaires, c'est-à-dire faire le contraire de ce qui se passe systématiquement quand il y a un ralentissement de l'économie, hein, au contraire, préserver leur emploi, embaucher les jeunes et répartir le travail entre tous. Là, à côté de Melun, il y a effectivement le cas de l'usine de PSA de Moissy-Cramayel, où PSA fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il il enlève le travail qui existe sur l'usine de Moissy pour le transférer sur l'usine de Vesoul. Donc d'un côté, il va condamner au chômage les travailleurs de l'entreprise, 180, 170 salariés, si j'ai bien compris. Mais de l'autre côté, le travail qu'il faisait, il va devoir être fait par les ouvriers de Vesoul qui sont, eux, surchargés de travail, qu'on pousse à bout, dont les cadences sont insupportables. Nous pensons que c'est le contraire qu'il faudrait faire. Il faudrait au contraire maintenir tous ces centres de production, répartir le travail, et faire que PSA paye, bien sûr, les salaires pour tous ces travailleurs. C'est pour un groupe comme PSA pas un problème de payer les salaires pour les 180 salariés. Quand on voit que le groupe a fait plus d'un milliard de bénéfices l'année dernière, a trouvé de l'argent pour augmenter de 2 millions la fortune de la famille Peugeot pour payer aussi son PDG 9 000 euros par jour, cet argent, ils l'ont en fait, cet argent pour payer les 180 salariés, sauvegarder donc leur emploi et leur salaire. Donc cette mesure-là, nous, elle nous semble être une mesure de bon sens. Dans une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles déjà arrêter cette hémorragie des licenciements, hein, en mettant un garrot, donc l'interdiction des licenciements, et on serait parti le travail, ce qui est très facile, encore une fois, dans tous ces grands groupes qui suppriment des emplois en continu depuis déjà des années. Hein, répartir le travail dans un groupe de la taille de PSA, c'est pas du tout un problème. Répartir le travail dans un groupe comme Bayer, puisque tu m'as expliqué qu'une petite boîte qui avait été rachetée dernièrement par Bayer, c'est Conis, c'est ça ? Bon, aller fermer son unité de production aussi, bon, bah, c'est justement contre ça, hein, nous, qu'on s'élève. Parce qu'au contraire, la situation imposerait qu'on préserve ces emplois et qu'on ne rajoute pas des chômeurs aux millions de chômeurs qui existent déjà dans le pays et qu'on ne rajoute pas de la misère à cette misère qui n'a jamais été aussi grande. Et bah, c'est cette mesure-là, on va la développer, essayer de la populariser, de faire comprendre qu'il n'y a pas de raison, qu'il y en ait qui se crèvent au boulot alors que d'autres sont condamnés au chômage. Et que dans cette situation-là, la variable d'ajustement, s'il y a un ralentissement de l'activité, ça doit être les profits, qu'on doit prendre dans les profits. Et que les profits, ils doivent servir justement à préserver, non pas le train de vie des familles bourgeoises, mais à préserver l'emploi et le salaire, c'est-à-dire la seule chose qui permet de vivre les femmes et les hommes travailleurs. Alors une autre mesure aussi qu'on mettra en avant, c'est celle d'augmenter les salaires, d'augmenter les pensions de retraite, mais de faire en sorte qu'elles soient augmentées au même rythme que l'augmentation des prix, c'est-à-dire imposer l'indexation des salaires et des pensions de retraite sur les prix. C'est une vieille revendication du mouvement ouvrier, c'est l'échelle mobile des salaires, mais dans la situation actuelle, c'est aussi quelque chose qui s'impose, c'est une nécessité pour tout le monde, si on ne veut pas être poussé dans la misère. Dans tous les départements, à l'échelle de tout le pays, on voit que le nombre de personnes qui sont dépendantes des restaurants du cœur, du secours populaire, augmente, y compris quand ils travaillent. Parce que les loyers ont explosé, parce que les charges ont explosé, parce que même les prix des produits alimentaires ont augmenté. Et il n'y a pas eu un salaire, une allocation ou une pension de retraite qui a augmenté à ce prix-là, à ce rythme-là. Eh bien, il faut imposer, justement, si on ne veut pas être plongé dans la misère, dans la pauvreté, eh bien, il faut imposer l'indexation de nos revenus sur les prix. Et puis, pour finir, nous dirons qu'il faut évidemment un contrôle sur ces grandes entreprises. Sur toutes les entreprises, il faut un contrôle. Parce qu'aujourd'hui, partout, ils nous expliquent qu'ils n'ont pas le choix. Hein, il faut qu'ils ferment, il faut qu'ils licencient, parce que c'est une question de rentabilité, parce que c'est une question de compétitivité internationale, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Bon. Ben, nous disons qu'ils nous montrent l'argent qu'ils ont dans leur caisse. Qui nous montre ce qu'ils ont. Alors, l'argent qu'ils ont en caisse, pas les comptes officiels hein, qui montrent à un fisc qui est souvent complaisant, mais tout l'argent qu'ils ont en caisse, tout ce qu'ils ont mis en réserve, tout ce qu'ils ont prévu pour inonder les actionnaires, tout ce qu'ils ont prévu aussi pour leurs futures opérations financières, parce que tous ces mêmes groupes qui nous expliquent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de fermer des entreprises ou de licencier, on les voit racheter d'autres entreprises, des concurrents. Ah, pour ça, ils ont de l'argent. Hein, pour les opérations financières, pour se racheter les uns les autres, ils ont de l'argent. Mais pour payer ceux qui ont fait leur fortune, ceux qui les ont enrichis, il n'y a plus rien. Eh bien, donc qu'on puisse voir et que les comptables, que les secrétaires puissent dire véritablement l'argent qu'il y a dans les entreprises, combien ils ont accumulé les années précédentes et combien, y compris, ils ont rapporté aux fortunes personnelles. Hein, parce que si vraiment il n'y avait plus d'argent dans l'entreprise, cet argent il est quand même bien passé quelque part, il a bien été dans les poches de quelqu'un, hein, et bien ça serait y compris légitime dans la période actuelle que, y compris sur ces fortunes privées qui ont été faites pendant des années sur le dos des travailleurs, et bien qu'on puisse se payer aujourd'hui pour survivre. Et le contrôle, il doit aussi être effectué pour connaître tous leurs projets à l'avance, pour savoir ce qu'ils se discutent, pour savoir les mauvais coups qu'ils préparent, PSA s'est illustré, là, a fait effectivement l'actualité avant les vacances, parce qu'on a découvert qu'ils discutaient déjà depuis trois ans, de fermer trois usines. Alors ils discutent comme ça en cachette, ils préparent leur mauvais plan, et puis les travailleurs qui sont concernés, ils seront avertis quand ? La veille de leur licenciement ? Quand l'usine, quand ils auront déjà la clé pour fermer l'usine ? Mais ça, c'est pas normal. C'est pas normal que les travailleurs concernés soient les derniers mis au courant, et que, y compris toute la population de la région concernée, soit mis au pied du mur. Donc nous pensons que toutes ces décisions, toutes ces discussions qui se font dans le secret aujourd'hui, eh bien, elles devraient être rendues publiques par les travailleurs qui en sont témoins. Aujourd'hui, c'est interdit par la loi. C'est la loi sur le secret des affaires, sur le secret industriel, sur le secret bancaire. Et tout ce que les travailleurs pourraient dire, divulguer à l'extérieur de ce qui se passe dans l'entreprise, eh bien, ça peut les amener devant les tribunaux. Dernièrement, dans l'actualité, je ne sais pas si vous avez vu, mais les travailleurs de Fralib, dont l'entreprise ferme à Gémios dans les Bouches-du-Rhône, ont été envoyés dans la justice parce qu'ils avaient porté atteinte à l'honneur de l'entreprise Unilever, du groupe Unilever, tout simplement parce qu'ils avaient osé dire que Unilever ne payait pas d'impôts en France. Alors voilà comment la loi est faite. Comment le secret s'impose aux travailleurs et comment on est dans l'incapacité effectivement d'être ne serait-ce qu'au courant de choses qui nous concernent au premier chef. Eh bien nous pensons qu'il faut supprimer cet interdit-là, cet interdit des affaires. Donc que les travailleurs puissent dire tout ce qui se passe et on serait bien plus bien mieux armés pour nous défendre. Bien plus en situation d'empêcher tous ces mauvais coups qui se préparent. Alors voilà les différents points du programme de lutte qu'on va essayer de populariser dans cette campagne. Nous savons très bien que tous ces objectifs-là, c'est des objectifs qui devront être imposés au patronat par un rapport de force, par des luttes. Ils n'accepteront pas comme ça de faire le sacrifice de leur profit et d'être mis sous contrôle des travailleurs. Ça, on le sait pertinemment. Mais on sait aussi que sans ça, sans ces mesures-là, eh bien, on reculera. Si on les laisse faire et si on n'impose pas ces mesures vitales, ces exigences vitales, on reculera. Parce qu'eux, ils n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite. Et dans cette période de crise, bah, ils sont prêts, effectivement, à nous faire reculer des années et des années en arrière. Donc, c'est effectivement des luttes qui nous attendent. C'est eux qui forceront à nous battre, mais dans ces luttes, ben nous espérons que les travailleurs auront présent à l'esprit ces objectifs-là, de façon à ce qu'ils puissent vraiment inverser le rapport de force et à se retrouver dans une situation meilleure pour défendre leurs conditions de vie et leurs conditions de travail. Bon, voilà pour ma présentation. Je veux bien approfondir d'autres points dans la discussion. Mais d'abord, je vais vous laisser poser des questions si vous voulez.
Moi, je voulais revenir en fait sur le cap, comme ça, de PSA. Voilà, c'est 180 employés qui se retrouvent licenciés. Par rapport à ça, qu'est-ce que proposent les ouvrières aujourd'hui? Vous en avez parlé un petit peu, mais aujourd'hui, concrètement, j'imagine que vous avez rencontré avant. Donc, quelle est votre réaction à ce sujet et ce qu'il aurait fallu faire dans ce cas?
Alors d'abord, je ne sais pas si tu peux, toi, expliquer un peu plus la situation à Trini.
Je pense que ce qui s'est passé à Melun, c'est encore plus horrible que de vouloir licencier des gens. Parce que maintenant, le patronat a bien compris que licencier, c'est négatif, surtout pour l'image du PSA. Donc on partait quand même de 700 personnes. Donc maintenant, le but de la manif, c'est pas licencier, d'envoyer tout le monde au Pôle emploi, mais d'une manière volontaire. Donc voilà, donc les nouveaux plans de direction, maintenant, c'est les plans de départ volontaire. Dans le cadre de GPEC, dans le cadre de plans de départ volontaire qu'on appelle TREC, voilà, c'est annoncé à des personnes qu'on va fermer, alors qu'on était 700, donc il y a déjà eu un premier plan, pour passer à 390, ça annonce la fermeture. Donc les plans de la direction, bah, c'est simplement, c'est harceler les gens, de les pousser en leur disant de toute façon on va fermer, part tout de suite, il n'y aura plus d'argent après, de toute façon on a des places, oui c'est dans les mêmes salaires que toi alors qu'ils confondent le brut et le net pour embrouiller un peu les salariés. Donc maintenant, ce qu'on a constaté avec Peugeot, c'est de sauver l'image du constructeur, parce qu'on serait les premiers licenciements en France. Ils sont arrivés à fermer l'usine d'Asnières sans licencier. Ils ont quasiment fait les trois quarts du chemin à Melun. Donc on ne part pas de 180 personnes qui n'ont rien, on part de personnes qui ont accepté des départs volontaires avec des fausses promesses d'embauche, plein de choses qui sont fausses dans le cadre du plan de départ volontaire. Et voilà, quand on rencontre quelqu'un dans la rue, j'en ai rencontré un tout à l'heure, et voilà, il est au chômage. Voilà, donc à un moment donné, cette personne, je la pensais reclasser. Mais à force de persuasion, les DRH qui sont spécialistes pour ça arrivent à faire avaler n'importe quoi aux ouvriers, leur expliquer qu'il n'y a pas d'avenir à Peugeot, que ça va fermer, qu'il faut signer le plan de départ volontaire. Et voilà, on les retrouve au Pôle emploi, et comme ça, ça évite à Peugeot de reclasser les personnes, parce que là, on voit bien que, bien sûr, Pôle emploi va payer pour eux. Donc c'est tout bénef pour Peugeot, il ne licencie pas, il envoie les gens à Pôle emploi, et ils ne payent pas pour leur reclassement. Et voilà, donc à un moment donné, on se retrouve à 180 personnes, mais on était beaucoup plus que ça. Le mal est fait. Le mal est fait. Donc c'est ce que je dis. Il suffirait de taper le nom des personnes qui sont parties, qui sont censées être reclassées dans la base de données de Pôle emploi, pour voir combien ça va coûter à la collectivité. Donc en fait, les plans, maintenant, ils sont beaucoup plus vicieux qu'autrefois. Autrefois, on aurait vu 600 licenciements dans un cadre d'un plan social chez PSA, mais maintenant, ça fera 50 licenciements à la fin, parce que même encore actuellement, ils arrivent à bourrer le crâne à des gens qui sont déjà éreintés d'un an et demi de bourrage de crâne, et voilà, donc il y a encore des gens qui partent avec n'importe quoi. Alors, il y a des gens maintenant, alors la tendance, c'est de partir avec une inscription d'intérim pour des personnes qui ont plus de 10 ans d'ancienneté chez PSA. C'est quand même fort du café. Et voilà, et ça marche. La persuasion, le fait que des collègues soient partis dans le même cas, que des personnes soient saoulées de toute cette situation, et ça arrive ils arrivent à arriver à la fin. Donc voilà, donc le but maintenant, ça sera de voir à la fin, donc on va essayer de... Ils vont tenir, je pense, fin janvier, mais il y aura peut-être 50 licenciements, alors qu'il y aura plein de gens dans la précarité, et peut-être après dans la misère, à cause de leur plan de départ volontaire. Donc moi je dis, le plan de départ volontaire, la rupture conventionnelle, l'article 6 de la convention de l'UNEDIC, voilà, des armes absolues maintenant pour fermer des usines, et c'est réplicable à volonté dans d'autres usines. Voilà, donc ils ont tendance à s'expliquer que Renault fait pire que nous, voilà, pour leurs explications, ouais, ça nous soulage tout de suite. Voilà, que quand on apprenait la fermeture en avril 2010, on ouvrait l'usine toute neuve en Chine, bien sûr, 5000 personnes. Donc là, il y a encore une nouvelle usine, 650 millions d'euros en Inde, voilà, donc tout se passe bien chez PSA, voilà, on délocalise, troisième usine en Chine, mais bon, voilà, pour la France, beaucoup moins de choses, quoi. Donc le pire, c'est que, sur papier, Peugeot ne veut plus licencier. Mais on voit les gens à la précarité. Ouais, c'est encore mieux,
Alors bon, qu'est-ce que nous, on peut faire, justement, déjà dénoncer ces licenciements, parce que appeler un chat, ce qu'on voit, c'est que, y compris, il le cache, hein, c'est une politique hypocrite, il cache des licenciements, il cache une fermeture d'entreprise derrière des reclassements, derrière des départs volontaires, enfin bon, effectivement, ils ont un arsenal de mesures. Bon, et bien nous dénoncer, hein, le PSA, c'est un fabricant de voitures, mais c'est aussi un fabricant de chômeurs aujourd'hui. Et c'est pas acceptable. Et c'est pas la démondialisation. C'est pas la mondialisation. Mais justement, c'est pas la mondialisation. Le travail, ils le font partir à Vesoul. Et ils vont casser encore plus les ouvriers de Vesoul. Parce que c'est une usine où les conditions de travail sont extrêmement difficiles, où les gens ils sont cassés avant l'âge, avant de partir à la retraite, où ils ne tiennent pas les cadences. Et ben voilà, c'est ça qu'ils vont faire. Donc déjà le dénoncer, déjà le faire savoir, déjà le dire, de façon à ce que, justement, on ne se laisse pas avoir, hein, et qu'on ne se décourage pas. Qu'on ne se démoralise pas, parce que ça, c'est pas acceptable. Donc nous dirons que ça, c'est pas acceptable. Et qu'il y aurait une autre façon de faire. Il ne faut plus parler de reclassement, il ne faut plus parler... Non, parlons de partage du travail. Ça, il y a moins de boulot, il y a moins de... voiture à produire, eh bien on partage, on baisse les cadences, on baisse les chaînes. On sera moins crevé le soir. Voilà, on dormira mieux. Il y a moins de voitures à fabriquer. Pourquoi ces horaires où les gens, ils n'arrivent même plus à vivre correctement? Pourquoi travailler de nuit? Pourquoi commencer à 4h du matin? Ben, si vraiment il y a un rush, on se partage le travail, on diminue les horaires, on rend la vie. Voilà, on change la façon de produire. Bien sûr, ça coûtera de l'argent. Mais cet argent, ils l'ont. Non seulement ils l'ont, mais en plus, le drame, c'est que cet argent, il se retourne contre nous tous parce qu'il l'utilise à la spéculation et l'utilise à des opérations financières. Donc, on perd sur deux tableaux, parce qu'il n'est pas utilisé pour maintenir nos emplois et nos salaires, mais parce qu'en plus, on en crève, toute la société en crève de cet argent qui est aspiré par la finance et qui entraîne des crises à répétition. Donc essayez de faire que ces idées-là de bon sens, elles s'imposent dans la tête de chacun. Et effectivement, donner cette perspective-là, ce combat, on peut le mener. Il faut le mener. Il ne faut rien, il ne faut pas céder là-dessus. Il ne faut plus accepter qu'un seul soit mis dehors. Il ne faut plus accepter que les intérims soient renvoyés comme ça. Aïe, voilà, on a des commandes en baisse le mois prochain. Eh bien, les licences intérimaires, ce n'est pas des licenciements, hein, c'est des intérimaires. Eh bien, non. Il faut nous préserver, nous protéger. Ah bien, le gouvernement, tous les États, ils ont réussi à mettre en place des mesures exceptionnelles pour protéger les capitalistes, pour protéger les banquiers. Ils ont inventé des subventions, ils ont inventé des fonds de garantie, ils ont inventé plein de choses. Des plans de soutien. Bon, et pour protéger les travailleurs, on fait quoi? Donc nous, il faut effectivement qu'on mette en avant les mesures qui pourraient nous protéger. Et convaincre autour de nous que ces mesures-là, elles sont nécessaires. Et que si on se bat pas pour ça, ils nous feront reculer, 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 reculer. C'est eux ou c'est nous, dans cette situation-là. Parce que le chômage et la misère dont on parle, mais ça pèse, c'est toute la société qui part à volo dans plein de quartiers populaires, de ce fait-là. Et après, les mêmes vont nous dire qu'il y a trop de délinquance, que la jeunesse, elle est déboussolée et qu'elle est désocialisée. Mais si la jeunesse, une fois qu'on l'a rejetée de l'école, parce qu'on n'a plus les moyens de s'en occuper maintenant, hein, tous ces jeunes des quartiers populaires qui sont en échec scolaire, pourquoi ils sont en échec scolaire? Parce qu'aujourd'hui, on supprime des postes d'enseignants, des postes d'instituteurs, et parce qu'on ne donne pas les moyens de leur offrir une véritable éducation, de les entraîner, etc. Donc ils sont rejetés. Alors ils sont rejetés par le système scolaire, après c'est le chômage, et après on va s'étonner que ces jeunes ils soient désocialisés. Ben non. Mais tout ça, toute cette misère qui s'accumule, tout ce chômage, c'est ça, c'est une société de plus en plus désagrégée. Bon, on risque effectivement de reculer, donc c'est une nécessité de se défendre, de se battre sur tous ces points-là. Alors, c'est pas ça qui fera que les gens se battront, mais si les gens n'ont pas cette perspective-là, s'ils se disent pas, ça on peut le faire, cette solution-là, elle est possible. Alors là, c'est sûr qu'ils ne se battront pas, c'est sûr qu'ils se laisseront faire. Donc c'est des perspectives qu'il faut défendre. Sans ces perspectives-là, il n'y aura pas de lutte. Et ça, on peut le faire, on peut les défendre, ces idées-là. On peut faire qu'elles s'imposent à tous. Donc, on va utiliser cette campagne-là pour le faire au maximum.
C'est vrai que l'argent, il y en a. À la SNECMA, ils rachètent les lignes par milliard. Ils ont racheté la L1-Identité, 1,1 milliard. Ils avaient racheté il y a quelques mois la SNPE. Ils commencent à la dépecer, à voir à fermer les sites, comme ils avaient fait avec la mine à l'avant. Où il y avait la fermeture de Molex. Là, maintenant, ils ont des vues sur Fiat Avio. Et là, on voit quoi. Les milliards, il y en a. Les milliards, il y en a. Il y a quand même toute une partie de l'économie qui fonctionne. C'est pas vrai. Et là, quand ils nous présentent comme une fatalité le fait qu'il faut payer la dette, hein, leur dette, qu'il faut que ce soit nous qui payons, Nathalie, elle va dire, et le plus fort possible, c'est que. Il y a d'autres possibilités. ils partent, et quand ils partent pas en spéculation, ils partent en restructuration. Et encore en suppression d'emplois. Franchement, il faut vraiment qu'on se batte, qu'on se défende et qu'on a la campagne. C'est ça qu'on essaiera de dire.
D'autant plus qu'à la SNECMA, là, en ce moment, ils embauchent, ils prennent plein d'intérimaires, il y a plein d'intérimaires qui arrivent, puisque les comptabilités qui arrivent commencent en plein. Ils pourraient les embaucher. Maintenant, ils préfèrent prendre les intérimaires, puisqu'ils sont corvéables, ils peuvent les virer comme ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, la SNECMA, elle a les moyens de prendre ces jeunes-là. C'est que des jeunes, tant mieux. Et voilà, ils ne font pas d'embauche. Voilà, ça fait partie d'une des entreprises de la région aujourd'hui qui embauche, qui heureusement ne licencie pas. Mais voilà, elles ne font pas mieux que les autres. Parce que ces intérimaires, ils ont les contrats de 6 mois, ils ont des carnets de commandes de 10 ans, 15 ans, 6 mois. C'est minable, quoi. Et ça aussi, on va le dénoncer, tout ça.
Voilà, autant vous dire que nous, on ne pense pas que la situation elle changera simplement par un butin mis dans l'urne, par un changement au pouvoir d'une équipe, mais elle changera, voilà, l'alternative politique pour les travailleurs, c'est d'inverser le rapport de force. Et ça, voilà, c'est ce qui sans doute d'ailleurs distinguera ma candidature des autres. Hein. On ne va pas se présenter en sauveur suprême, il n'y a jamais eu de sauveur suprême pour les travailleurs, jamais. Tout ce que les travailleurs ils ont obtenu, ils l'ont arraché. Ils l'ont arraché au patronat par leur grève, par leur manifestation. Et eh bien oui, voilà, c'est avec ça qu'il faut renouer si on veut préserver nos vies, tout simplement. Mais dans ces luttes, il faut savoir pourquoi se battre. Et il ne faut pas que sa combativité soit gâchée. Il faut arriver effectivement à imposer ces mesures-là qui donneront, qui offriront des perspectives à tous et qui nous unifieront. Se battre pour le partage du travail entre tous, c'est aussi permettre que dans les luttes, il y ait les travailleurs et les chômeurs. Les travailleurs, les chômeurs et cette jeunesse qui est livrée au désœuvrement et qui n'a pas de projet. Donc ces objectifs-là, il faut aussi absolument qu'ils soient présents dans la tête de chacun, de façon à ce que les luttes à venir, elles offrent ces perspectives à tous. Il y a d'autres choses qu'on n'a pas abordées. On n'a rien dit sur les banques, sur ce qu'il faudrait faire pour les banques. Mais bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
C'est parce qu'ils sont plus rapaces. Et c'est ça que nous, on a envie de
qu'ils sont, eux, pris à la gorge par la concurrence internationale. C'est tout ça, il faut les démasquer là-dessus. C'est souvent eux-mêmes qui organisent la concurrence internationale.
Oui, mais ce que vous dites, vous parlez surtout des grandes des entreprises, mais le monde du travail aussi, ce sont des petits travails. Il y a aussi des petits travailleurs, des petites entreprises, des gens qui travaillent chez des particuliers. Et pour cela, qu'est-ce que vous préconisez?
Alors justement, enfin, d'abord, beaucoup de petites entreprises qui travaillent aussi pour ces gros groupes pâtissent de cette politique-là. Et nous pensons que si cette activité elle est maintenue avec tous les salariés, eh bien ça fait du travail pour les entreprises sous-traitantes aussi. Et puis surtout, ça fait des revenus pour les travailleurs qui peuvent aller acheter aux artisans du coin, qui peuvent refaire leur plomberie, qui peuvent refaire leur chaudière, qui peuvent. Et les travailleurs, je vous dis, ne peuvent pas ça, ils ne peuvent plus. J'ai été frappée par tous les reportages qu'il y a sur la Grèce. Vous avez vu tous les petits artisans et les commerçants qui sont vraiment plongés, eux, dans la misère parce qu'ils n'ont plus de clients. Ils n'ont plus de clients et on comprend bien pourquoi. Les salaires des fonctionnaires, ils ont été diminués d'un quart. Les pensions de retraite, elles ont perdu 200, 300 euros sur les petites retraites. Ils n'ont plus de clients. Et c'est toute l'économie qui en meurt. Donc, nous pensons qu'il faut commencer par imposer à tous ces grands groupes, à tous ces gros qui font l'économie, qui pèsent sur toute l'économie, imposer de prendre sur leurs profits, que leurs profits, ça soit une barrière d'ajustement pour maintenir l'activité, pour maintenir les emplois et pour maintenir les salaires. Et les petits artisans, les petits commerçants, les sous-traitants, eh bien, ils vivront. Ils vivront. Donc, voilà les perspectives. C'est pour ça qu'on dit, y compris les revendications des travailleurs de maintenir leur emploi, c'est pas des revendications égoïstes. C'est des revendications qui vont dans le sens de bien d'autres catégories populaires, qui vont dans le sens, en fait, de toute la société. Et elle disait, mais des millions, il y en a, mais la France, c'est le paradis des millionnaires. Alors, on a appris qu'elle avait plus de millionnaires que l'Angleterre, plus que l'Allemagne. Regardez toutes les grandes fortunes, elles ont augmenté de 10, de 20% ces dernières années en pleine crise, en pleine crise. On ne va pas nous dire qu'ils manquent de l'argent. Quand on apprend, vous avez vu, ils veulent imposer une petite taxe là sur les transactions financières, je ne sais pas si vous avez vu ça, ils le présentent comme la mesure révolutionnaire qui va limiter la spéculation. Je veux bien revenir dessus, mais à l'occasion, ils ont expliqué que sur les places européennes, il y avait 6 000 milliards d'euros qui étaient échangés tous les jours. Bon, ça fait quand même pas mal d'argent. Ça fait pas mal d'argent. Et sur ces 6 000 milliards, ils veulent les taxer à 0,1% ou alors à 0,01%. Alors nous, on va acheter notre baguette de pain. On paye une taxe de 5 cents dessus, on va acheter n'importe quoi d'autre, on va payer 19,6% de taxe, mais eux, pour leurs opérations là, qui nuisent à toute la société, il faut qu'ils payent 0,01% de taxe. Mais ils se posent de qui, là? C'est ridicule. Et ils prétendent que ça va ralentir la spéculation. Vous savez, en 2008, ils ont expliqué qu'ils allaient mettre fin aux paradis fiscaux, à la spéculation, etc., etc. Mais la spéculation, elle est encore plus forte, elle est encore plus importante, il y a encore plus d'argent dedans. Donc nous disons que cet argent, ce serait une mesure de bon sens qui sert aux emplois, qui sert à embaucher. Je n'ai pas parlé de l'État, le premier licencieur du pays quand même. Que l'État embauche des instituteurs, des enseignants, qu'il embauche du personnel dans les hôpitaux, des infirmières, mais des aides-soignantes, le personnel d'entretien, de maintenance dont il y a besoin. Hein, plutôt que de faire reculer les bureaux de poste et de nous imposer des queues à n'en plus finir, au point où on n'a même plus envie d'aller à la poste, qu'ils embauchent des guichetiers, qu'ils embauchent des facteurs, tous ces métiers qui sont utiles pour la société. Ça ne serait pas de l'argent perdu, ça ne serait pas de l'argent envolé. Ça serait de l'argent pour améliorer notre vie au quotidien. Donc voilà, nous ce qu'on veut, c'est transférer cet argent de cette sphère financière qui aujourd'hui amène toute l'économie à la ruine vers la population, vers ceux qui la font vivre, vers remettre l'économie sur ses pieds, remettre voilà. Mais ça, ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir leur imposer, parce qu'ils sont, eux, irresponsables. Eux, ils sont irresponsables du point de vue de la société. Ça ne leur viendrait pas à l'esprit de faire ça, eux. Eux, ils poursuivent leurs intérêts égoïstes. Et ils n'en ont jamais assez. Au point qu'ils vont, ils veulent imposer aux ouvriers de la fonderie de baisser leur salaire d'un quart, rien que ça, comme si, avec un quart de votre salaire en moins, vous pouvez continuer à vivre. Enfin bon, voilà. Donc, eux, ça ne leur vient pas à l'esprit. Bon, mais nous, c'est des mesures vitales, etc. Il faut que ça, il faut qu'on pense comme ça. Il faut que les travailleurs autour de nous réfléchissent comme ça et qu'ils ne tombent pas dans les pièges hein, de la crise, de la dette, de comment il faut sauver l'euro, de comment il faut sauver je ne sais pas trop quoi. Parce que c'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est de sauver leur argent à eux.
Un petit peu plus présent sur des chaînes radio, sur des chaînes télé, à marteler des idées avec des arguments bien sentis, ça ferait son chemin et ça mobiliserait davantage. Ben bon, moi, c'est mon point de vue. Hein.
C'est exactement pour ça que nous participons à cette élection présidentielle.
Oui. Je pense aussi. Mais je ne vous vois pas passer sur les médias.
Donc voilà, c'est... Parce que ces idées-là, on les défend au quotidien, et pas moi, mes camarades, tous. Et donc là, on va se saisir effectivement de cette occasion-là pour avoir une... plus de possibilités pour nous exprimer dans les médias. Mais après, les médias, bon, à part mettre en place un commando pour prendre d'assaut le journal de 20h de France 2, je vois pas trop comment, quoi. Donc, non, mais il faut pas se faire d'illusions non plus. Les grands moyens de communication, ils ont jamais été au service du mouvement ouvrier, hein, des idées et des luttes du mouvement ouvrier, jamais, jamais, jamais. Et le mouvement ouvrier, pour défendre ses idées et ses objectifs, il a toujours dû faire avec ses propres moyens. Nous, on ne crache absolument pas, et au contraire, on invite les médias et on les sollicite, mais on est conscient aussi que la façon dont les idées de défense des intérêts des travailleurs peut circuler avant tout, c'est nous-mêmes, en les propageant autour de nous, c'est par l'action militante. Et ça, bah ça, on peut le faire, mais voilà. Donc... maintenant, je ne refuse aucune invitation, je te rassure.
Avec tout le monde dans la conscience, à l'heure actuelle, avec tout ce que nous faisons, sans cette fameuse communication. Être sur le terrain, se battre quotidiennement, très bien, tout le monde en a conscience, mais je pense qu'il y a, ça qu'il faudrait peut-être développer davantage.
Enfin, je voudrais juste lancer un petit peu, on ne peut rien faire. Je ne pense pas que la télé tunisienne de Ben Ali, elle ait beaucoup aidé les Tunisiens à se révolter, et n'empêche que cette révolte, elle a jailli et elle a entraîné. Et bon, moi je suis convaincue que s'il y avait effectivement une révolte comme ça qui soit contagieuse, ça les emporterait. Voilà. Je dis, voilà, c'est pas contradictoire hein, ce qu'on dit, hein, c'est pas contradictoire, mais je pense que, en tout cas, ça n'empêche rien. Ça ne condamne rien et continuons notre action militante et à rendre conscients le plus possible les gens qui nous entourent. Et j'espère que tu me verras un petit peu plus sur les grands médias. Bon, ils ont une obligation d'équité. Hein. Ce n'est pas les derniers, mais les dernières, je crois les dernières semaines, peut-être les deux dernières semaines, peut-être la dernière semaine, je ne sais pas. Il y a une obligation d'équité, donc a priori, je vais avoir quelques secondes. Voilà, c'est à minuit et entrecoupé de... Rajouter ou des exemples aussi que vous avez à donner parce que ça c'est utile souvent pour.